Take a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
Chères auditrices et auditeurs de Fréquence Mistral, ni hao pour tout le monde, pour cette nouvelle saison de Géopolitique et Histoire des Humains. Aujourd'hui, je vais décrire les enjeux de la politique étrangère de la République populaire chinoise. Aujourd'hui, le président est Xi Jinping. Il est président à vie depuis 2018. Et c'est sous sa direction que la République populaire de Chine vient de fêter son 70e anniversaire avec forces militaires en tête. Ce alors que la population de Hong Kong s'est soulevée contre l'autorité de Pékin depuis maintenant plus de 6 mois. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez déjà toutes et tous déjà entendu dans les médias français la semaine dernière. Retenez seulement que la Chine populaire est la plus ancienne dictature contemporaine avec sa voisine la Corée du Nord. Que son statut de membre permanent au Conseil de sécurité, associé à son statut de puissance économique mondiale, interdise toute critique étatique venant de l'extérieur de son propre gouvernement. Aucun pays à l'ONU ne critique Pékin. Le fait d'être en plus l'atelier du monde l'autorise à maintenir à l'intérieur une féroce gouvernance et à l'extérieur interdire toute complicité avec des opposants chinois ou tibétains. Cela fait bien longtemps, par exemple, qu'en France, notre cher Dalai Lama n'a pas été accueilli de façon officielle par un président de la République française. Généralement, on lui envoie la femme du président, un ministre, un sous-secrétaire d'État, mais jamais le président de la République française. Ceci autorise donc la Chine à interdire aux Nations Unies aussi d'intervenir contre un tyran allié des Chinois, comme au Soudan ou en Syrie, ou une junte militaire en Birmanie, ou dans l'histoire à soutenir seul le régime de Pol Pot au Cambodge dans les années 70. Donc, pour faire court, un seul parti, le Parti communiste chinois, un seul dirigeant, le nouveau Mao Xi Jinping.
L'histoire de la Chine nous permet-elle de comprendre l'actualité, Serge ?
Merci, James. Eh bien oui, la Chine a une très longue histoire. C'est l'un des pays les plus vieux du monde. L'Empire du Milieu était déjà une puissance économique et culturelle dans le monde connu lors de la Rome antique. Les belles riches romaines se drapaient déjà de soie de Chine pour leur montrer leur statut social. La route de la soie apportait les produits inexistants en Occident, tout comme des nouveautés scientifiques comme le zéro au Moyen-Âge, et le monde chinois connaissait lui aussi des pensées occidentales. Ainsi, les archéologues ont retrouvé des grottes en Mongolie intérieure avec des représentations chrétiennes, hébraïques et musulmanes, mêlées à des idéogrammes chinois. La civilisation chinoise s'est développée au contact de toutes les autres civilisations, puis elle s'est fermée à partir de la fin du XVe siècle. Les Chinois, comme les Japonais, pensaient ainsi se protéger contre un Occident déjà trop colonisateur et occupant. Les Portugais à Macao et la route de la soie sont les seuls points de passage à partir du XVe siècle autorisés. Aucun non-chinois n'est autorisé à entrer en Chine. Cette fermeture de l'Empire du Milieu a cessé à partir de 1840 avec les guerres de l'opium engagées par la France et la Grande-Bretagne et les 1000 traités inégaux signés à partir de 1840 avec toutes les autres puissances coloniales qui ont vaincu les armées chinoises. Ainsi, la Grande-Bretagne a pu s'installer à Hong Kong, puis à Shanghai, avec les Américains et les Français. Les Français, au nord de l'Indochine, ont occupé, pour ainsi dire, tout un territoire. Les Allemands ont eu le port de Tientsin et les Japonais, par la suite, ont eu la Corée et puis la Mandchourie. Commence pour les Chinois d'aujourd'hui, alors, ce qu'ils appellent le siècle de la honte. Les Chinois sont vaincus par les puissances coloniales et la jeune République chinoise fondée en 1911 par Sun Yat-sen, qui s'était tournée vers l'Occident comme étant l'une des solutions à son développement et à son indépendance, a été trahie par les alliés français et britanniques à qui elle avait offert des coulis pour faire les tranchées sur le front français. Eh bien, ces Chinois ont été trahis parce que les Français et les Britanniques ont donné les ports allemands, que les Allemands possédaient jusqu'en 1919, eh bien, aux Japonais, sans demander leur avis aux Chinois. Par la suite, eh bien, cette jeune république chinoise est gangrénée par une guerre civile entre les communistes, les seigneurs de la guerre et les nationalistes de Chiang Kai-shek. Cette guerre se poursuit malgré l'invasion japonaise à partir de 1932-1937 et ce jusqu'en le 2 décembre 1945. On pourrait croire que la guerre est terminée, mais non. La guerre civile continue entre les partisans du Kuomintang et de Chiang Kai-shek qui iront se réfugier à Taïwan. Et puis les troupes donc communistes dirigées par Mao Tse-tung et qui va déclarer, donc, le 1er octobre 1949, la fondation de la République populaire de Chine, place Tiananmen. Les estimations du nombre de morts durant la Deuxième Guerre sino-japonaise font état de 20 à 27 millions de morts, sans compter les blessés. À ceci s'ajoutent 6 millions de victimes dans la guerre civile de 1927 à 1950, dont 4 millions pour la seule période de 45 à 50 entre les partisans du Kuomintang et les partisans du Parti communiste chinois. Donc, quand Mao Tse-tung prend le pouvoir, la Chine est anéantie. Anéantie, elle n'a plus d'intellectuels, elle n'a plus d'industrie, son agriculture est exsangue, elle n'a plus d'infrastructures, tout a été bombardé soit par les Japonais, soit par les Alliés, soit par les Soviétiques quand ils ont envahi le Mandchourie. Et ce souvenir reste très vif en 2019. Ce souvenir du siècle de la honte est cultivé allègrement par l'État communiste chinois. La Chine est en paix à l'intérieur, elle est maintenant une puissance respectée, et ce, grâce à Mao Tse-tung et aux autres dirigeants communistes qui lui ont succédé jusqu'à l'actuel Xi Jinping. Rien sur les 20 millions de morts du grand bond en avant, rien sur les disparus de la révolution culturelle, rien sur les centaines de milliers de victimes de Tiananmen et des autres villes qui avaient demandé la cinquième révolution, la cinquième réforme en 1989, c'est-à-dire la démocratie. Rien sur les Tibétains, rien sur les Ouïghours du Xinjiang qui sont persécutés et enfermés dans les Laodai, c'est-à-dire les camps de concentration et de rééducation chinois. Rien de nouveau si l'on peut plagier, Eric Mariam a remarqué, en Chine. Toute opposition est vue dès lors comme une ingérence étrangère qui mène à la désunion, donc au chaos passé, et donc le Chinois qui se permet de critiquer le gouvernement est un traître non seulement au parti, mais aussi à la nation. En ce moment, le gouvernement chinois développe dans ses médias une vision des Hongkongais qui manifestent. Je rappelle que ça fait 6 mois qu'ils manifestent pour plus de démocratie. Il les accuse d'être des agents de la CIA, relayés par des aficionados de la Chine en Europe, qui disent bah oui, c'est peut-être possible. Bon, voilà. Il y a un article de l'Humanité qui était un peu bizarre il y a 2 semaines sur la question. Ne nous y trompons pas. Le défilé qu'il y a eu la semaine dernière, ce grand défilé militaire sur la grande avenue qui mène à la pièce, qui traverse la place Tiananmen, eh bien, ce grand défilé n'est pas pour l'étranger. C'est pas pour faire peur aux Américains, c'est pas pour faire peur aux Français, aux Occidentaux. Les services secrets des grandes puissances savent le potentiel réel de la Chine populaire. Cette manifestation, comme celle de notre 14 juillet sur les Champs-Élysées pour nous, Français, est pour le peuple chinois en Chine. Populaire, mais aussi le peuple chinois à Hong Kong, mais aussi le peuple qui est déclaré chinois à Taïwan, qui doivent rentrer dans le giron de Pékin. C'est l'un des grands objectifs, c'est que tout ce petit monde chinois redevienne et dans, redevienne en fait la Chine et une unique Chine. L'armée est ainsi le bras armé du parti. Et donc, quand le président Xi Jinping, comme elle l'a toujours démontré, que ce soit sous Mao ou sous Deng Xiaoping, en 1989, sur la pièce Tiananmen et dans les villes chinoises, quand les chars populaires de l'armée populaire ont roulé et tiré sur les manifestants étudiants de la place Tiananmen et des autres villes. Cette démonstration de force est aussi, et on peut le voir ainsi, est aussi un aveu de faiblesse. Car Xi Jinping et la Chine populaire doivent résoudre des enjeux importants s'il veut être considéré comme une puissance respectable et que le régime ne craque pas en fait de l'intérieur. Il est en effet peu probable que le danger vienne de l'étranger. Même Trump ne veut pas de guerre, et Xi Jinping non plus. Le premier car c'est à l'encontre de ses promesses électorales, America's First. Le second car une guerre ne résout pas les équations complexes pour maintenir sa popularité. D'autant plus qu'à l'intérieur du Parti communiste chinois, vous avez des tendances qui sont contre Xi Jinping. Et puis la Chine, franchement, n'est pas prête militairement pour affronter son grand ennemi du moment, les États-Unis d'Amérique.
Quels sont les enjeux de la pour la Chine actuellement, Serge ?
Comme le déclare l'hymne de la République populaire de Chine, « Debout, debout, nous ne voulons plus être esclaves. Nous allons construire avec notre chair une nouvelle muraille. La nation connaît son plus grand danger. Nous qui ne faisons plus qu'un, bravons les tirs ennemis, en avant, en avant, en avant. » Pour Xi Jinping, le premier enjeu, c'est la paix intérieure. Et la paix intérieure passe par des ventres bien remplis. Donc le premier enjeu est alimentaire. Il ne faut pas nourrir 67 millions de Français, il faut nourrir 1,4 milliard de Chinois. Ça, c'est le grand enjeu. 1,4 milliard de Chinois. Je ne sais pas si on se rend compte, ça fait à peu près 20% de la population mondiale sur 8 milliards. Hein. La Chine n'est pas qu'un pays de riz. Là, il faut arrêter. Ça, c'est bien pour l'image d'Épinal. Non, la Chine est à la fois un pays de riz au sud et un pays de blé au nord. Jusqu'en 2000... la Chine était autosuffisante tout en se développant. Je vous rappelle la petite chanson de Jacques Dutronc, 700 millions de Chinois, Chinois et moi, et moi, et moi. Là, ils sont arrivés, ces 700 millions, à nourrir 1,4 million d'habitants, c'est-à-dire que depuis 50 ans, la population a été doublée. Voilà, pour que la population double, il nous faut plus de 100 ans, donc on a le temps de s'adapter. Bien. Elle a été doublée, donc, et le développement social d'une classe moyenne de 150 millions de Chinois sur 1,4 milliard d'habitants et l'urbanisation de la société chinoise contemporaine, c'est-à-dire qu'on est passé d'une société rurale à 80% à une société urbaine à 50%, eh bien, ces changements radicaux depuis 50 ans maintenant, enfin, on va dire 40 ans maintenant, ont bouleversé la gastronomie chinoise. C'est-à-dire que le bol de riz, bah, au revoir, les nouilles, au revoir, tout ça, ça reste, hein, bien sûr, mais ils ont été remplacés par une croissance, eh bien, de produits animaux, de viande, de lait, de bœuf, de poisson. Une consommation qui a doublé dans ces secteurs-là depuis 1990. La part du blé, quant à elle, a baissé du fait que c'est un peu passé de mode. L'image d'Épinal, donc, est souvent donnée par cet enfant unique chinois, obèse à force de manger des McDonald's, et on aurait tort de le nier. Jusqu'à présent, la Chine produisait beaucoup sans trop regarder les normes sanitaires et environnementales. La révolution verte chinoise a été faite, tout comme chez nous en France, hein, et en Europe et aux États-Unis, avec adjonction de produits type glyphosate ou autres, les engrais chimiques, les pesticides, les herbicides, enfin tout ce que vous pouvez mettre dans un champ, bah, ils l'ont mis comme nous on l'a mis, hein, et que nous continuons à le mettre. Et ça, bah, qu'est-ce que ça a produit ? Bah, ça a produit des problèmes de nappe phréatique polluée, de terre qui commence à être, à ne plus être arable, c'est-à-dire sur lesquels on ne peut plus faire de l'agriculture. Et en plus de ça, on a un problème, enfin les Chinois ont un problème, c'est leur industrie agroalimentaire vieillissante et voire même très corrompue. Alors ainsi, on a eu un grand problème avec le lait en poudre qu'on donne aux bébés il y a 6 ans. Hein, ce lait en poudre était frelaté. Résultat des courses, les Chinois n'en ont plus acheté. Ils n'ont plus acheté de lait en poudre frelaté ou supposé être frelaté chinois. Ils se sont tournés vers des marques européennes, nord-américaines, histoire d'alimenter convenablement leurs petits bambins. Cette pollution donc, et ce problème de confiance ont changé la nature de la production chinoise et aussi ont poussé le gouvernement chinois à de plus en plus importer. Importer parce que ben, quand votre nappe phréatique n'est pas bonne, quand votre eau n'est pas bonne, ben, votre riz n'est pas bon, puisque je rappelle que le riz pousse dans des rizières qui sont abondamment irriguées en eau. Et voilà l'un des piliers chinois qui s'effondre. En 2015, le déficit agroalimentaire du commerce extérieur agroalimentaire de la Chine avoisinait les 70 milliards de dollars. Soja, venant principalement du Brésil, viande porcine, venant aussi de France, d'Europe, des États-Unis, le vin, venant principalement des pays comme la France, plus des pays producteurs de vin comme vous avez le Chili, vous avez l'Australie qui exporte du vin vers la Chine. Et le poisson qui est donc lui aussi importé. La Chine populaire, par l'intermédiaire de CFTN, comme la China Petroleum, a acheté des terres en Afrique, qu'elle exploite avec des ouvriers chinois. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de la main-d'œuvre africaine, elle sait pas faire. En revanche, des Chinois, ça sait faire. Donc, et vous retrouvez ce type de champs, ce type de surface agricole achetés en propriété par les Chinois, eh bien vous les retrouvez au Soudan, en Érythrée, en Éthiopie, à Madagascar. Des paysans chinois sont aussi envoyés en Sibérie russe, parce que les Russes blancs européens quittent la Sibérie parce qu'il fait trop froid. Il vaut mieux vivre à Moscou et à Saint-Pétersbourg plutôt que de vivre au fin fond de la Sibérie orientale. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez des paysans chinois qui traversent le fleuve Amour et qui vont travailler sur des espaces qui ont été abandonnés par des paysans russes. Ça a eu une importance parce que tout d'un coup, il y a des pays qui se sont dit « Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe là ? On a 1,4 milliard de Chinois qui sont au nord, au sud, ou à l'est, ou à l'ouest de nous, et ils font commencer à nous envahir. Là, ils achètent des terrains, et puis ces terrains ne sont plus la propriété d'un État, on ne sait plus trop ce qu'on fait dessus. » Et donc, vous avez des pays ben, comme l'Australie qui, il y a 5 ans, a interdit, littéralement interdit à tout Chinois ou à tout intérêt chinois de venir acheter des terres agricoles en Australie et d'y pouvoir faire paître, par exemple, des bœufs qu'elles pourraient réimporter vers la Chine. Donc, d'autres pays n'ont pas le choix. L'Australie est quand même un pays puissant qui est membre de la triade. Le Laos, la Birmanie, ils n'ont pas le choix. Donc, ils sont obligés d'accepter ces contrats, ces achats de terres par des Chinois ou des intérêts chinois. Donc, cette tendance à acheter des terres à l'étranger s'est accélérée au fur et à mesure de l'augmentation des besoins de la classe moyenne. Cette classe moyenne est très importante. 150 millions d'habitants, je vous ai dit, hein, sur 1,4 milliard d'habitants, ça vous paraît peu, c'est effectivement que 10% de la population, mais c'est sur elle que veut peser Xi Jinping. Voilà. Le Parti communiste chinois et Xi Jinping savent pertinemment que si jamais il devait y avoir une révolution, ça ne partirait pas des très pauvres, ça partirait de cette classe moyenne qui se sentirait appauvrie et qui, à partir de ce moment-là, bloquerait peut-être des ronds-points ou oserait braver les interdits que fixe donc le gouvernement chinois. Autre information à ce sujet, c'est que l'année dernière, le vice-ministre de l'agriculture chinoise a été élu contre une candidature française à la direction du FAO, c'est-à-dire cette institution des Nations Unies qui a pour vocation de lutter contre la faim dans le monde. Et donc cet homme a prévenu qu'il solliciterait le secteur privé avec le géant Bayer, les géants de la distribution chinoise Alibaba, c'est-à-dire l'équivalent de l'Amazon américain, ou encore la fondation Bill Gates, très active, elle, pour la promotion des OGM en Afrique.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront: comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Y a-t-il une politique environnementale en Chine, Serge ?
Eh bien, je vais répondre par un
oui.
Oui, c'est devenu une question centrale de la Chine populaire et de Xi Jinping. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une dose de cynisme. Enfin, bon, Xi Jinping n'est pas le seul personnage dirigeant du monde à être cynique au niveau du réchauffement climatique et de l'écologie en règle générale. Il suffit juste de se regarder du côté de Washington et peut-être aussi de certains dirigeants européens qui ont l'art et la manière de donner des leçons au monde, mais qui n'appliquent pas les préceptes qu'ils déclarent. Donc, la croissance économique de la Chine depuis 1979 et l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir exponentielle. La Chine, c'était un pays du tiers-monde, je le rappelle. Prenez une vieille photo des années 70 et vous verrez, la Chine, c'est un pays cycliste dans lequel les seuls qui avaient le droit à avoir une voiture étaient les gens de les personnels de la nomenclatura, c'est-à-dire les dirigeants du Parti communiste, et puis l'armée. Les autres, ils avaient un costume, facile à faire, col Mao, vert, bleu et gris, et les autres, ils roulaient à vélo. Donc c'était génial, on avait des pistes cyclables de 10 mètres de large, donc rien à voir avec les microscopiques pistes cyclables que nous pouvons avoir à Manosque. Donc, et cette Chine, donc, non seulement était un pays donc du tiers-monde, mais en plus, c'est un pays donc dictatorial dans lequel vous aviez des Laodai, c'est-à-dire des goulags chinois, qui n'est pas avec Mao, termine dans un Laodai, et Deng Xiaoping y avait été enfermé à un moment donné. Le père de Xi Jinping y avait été aussi envoyé, histoire de leur apprendre à vivre, et surtout à vivre à la chinoise, telle que Mao l'avait décidé. Donc, la Chine est devenue, depuis 1979, l'atelier du monde. Tout le monde vient produire en Chine, pour une raison très simple, pas de grève, ça c'est génial, pas d'horaire, ça c'est super, vous pouvez avoir des ouvriers pas chers, hein, 16 heures par jour, 7 jours sur 7, le dimanche n'existant pas, voilà, qui ne mouftent pas, puisque le syndicat est lui dirigé par le Parti communiste, donc un parti communiste qui dirige le syndicat, c'est parfait, donc, et tout le monde y est allé.
Bientôt près de chez nous si on ne fait pas attention.
Bientôt près de chez nous si on ne fait pas attention et si on ne s'active pas. Donc ça, c'était excellent. Donc, et c'est ce qui a permis l'industrialisation de la Chine. Je rappelle à certains auditeurs que le premier qui a délocalisé une entreprise, ou localisé, on va dire, parce que délocalisé, il y a un sens, je réimporte la production. Le premier qui a localisé une entreprise française en Chine, c'est le général de Gaulle avec les camions Berliers que nous avons envoyés en 1966, tout simplement parce que ça embêtait les États-Unis que la France ait des rapports avec la Chine. Donc, ce petit rappel historique fait Shanghai est devenu le premier port au monde. Et dans les 10 premiers ports du monde, vous en avez déjà 6 qui sont chinois. Et il ne reste donc à l'Occident que Tokyo, Rotterdam et New York avec Osaka. Le marché automobile chinois est devenu le premier marché automobile du monde. 50 millions de véhicules vendus par an. 9, je ne parle même pas des poubelles au diesel ou ailleurs ou autrement qui vont être vendues. Le peuple de paysans est passé de 80% à 50%, je l'ai déjà dit, mais surtout ce qui est très important, c'est la croissance des villes. Sous Mao Tse-tung, il était quasiment interdit de vivre en ville. Interdit, je veux dire. Mao Tse-tung avait dit que la révolution serait d'abord agricole et dans les campagnes et pas dans les villes. Donc ils avaient limité les gens qui voulaient aller en ville. Il fallait d'ailleurs un passeport pour aller en ville. Et pour changer de ville à ville, il fallait aussi un passeport. Il fallait demander l'autorisation du Parti communiste chinois de Shanghai et celui de Pékin. Pour savoir si on avait le droit de voyager de Shanghai à Pékin. Bref, tout ça a volé en éclats avec Deng Xiaoping. Et vous avez des villes, Chongqing par exemple, est passé de 100 000 habitants dans les années 80 à maintenant 34 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous imaginez une ville qui passe de 100 000 à 34 millions d'habitants. Vous avez 300 000 personnes qui viennent habiter à Chongqing par an. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Pour ça, il faut du sable. Et donc, les Chinois vont chercher du sable dans le monde entier. Voilà, c'est un jour où vous n'avez plus de sable. C'est que les Chinois sont passés par là pour construire. Je plaisante à peine. L'industrialisation a donc été le moteur de cette révolution et du changement de statut de la Chine populaire. Deux tiers monde allaient passer à pays émergents et désormais, on considère, ou certains considèrent que la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde, puisqu'elle est quasiment aussi riche que les États-Unis d'Amérique et soi-disant plus riche que l'Union européenne. Seulement, il faut faire attention. Faites bien attention. Un économiste... Les économistes ont une tendance à grossir les choses. On se retrouve aussi un peu comme Tintin chez les Soviets, vous voyez. On a une image d'Épinal de la Chine, c'est très beau. Les images de Shanghai qu'on nous livre sur les réseaux sociaux sont très belles. On a des immeubles incroyables, ils font plusieurs centaines de mètres. C'est magnifique, c'est joli, il y a de l'électricité partout. Bref, on a l'impression que c'est super. Vous faites 20 km et vous êtes redevenu dans la Chine de Mao. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais faites attention. La richesse d'un pays, c'est un pays n'est riche que si cette richesse est partagée. Sur les 1,4 milliard d'humains qui peuplent la République populaire de Chine, je répète, vous n'avez que 150 millions de gens qui appartiennent à la classe moyenne, c'est-à-dire qui vivent comme un Français de classe moyenne ou comme un Américain de classe moyenne. Le reste, et faites le calcul, le reste est encore nombreux, n'est pas encore dans cette dynamique de développement. Seulement, le Parti communiste chinois lui promet qu'il sera un jour ou l'autre dans cette dynamique de développement. Donc, ceci, cette industrialisation, cette urbanisation dont je viens de parler, cette croissance de la consommation dont je viens de parler aussi, la population l'a subi de façon directe. Ainsi, se balader dans Pékin à pied équivaut à fumer passivement 50 cigarettes par jour. Là, c'est pas la fumée-tue sur un paquet, c'est pas la fumée-tue, parce que tout d'un coup, vous voyez du noir au bout d'un échappement. Là, c'est 50 millions de véhicules qui crachent leur échappement, et les origines de cette surpollution des villes, eh bien, elles sont multiples. Vous avez les usines, qui ne sont pas toujours aux normes. Vous avez les déchets ménagers. Vous avez la prédominance du charbon comme combustible à la maison ou comme combustible pour produire de l'énergie électrique. Vous avez l'invasion de l'automobile. Un autre exemple, c'est qu'il n'y a eu que 54 jours de bon air dans les principales villes chinoises entre 2008 et 2015. 54 jours de bon air. Les géographes parlent aujourd'hui d'herpocalypse, c'est vous dire où on va. Le gouvernement de Pékin ne voulait pas publier les chiffres. Au départ, hein, comme le gouvernement. Là aussi, c'est pareil. Hein. Quand on parle de croissance, quand on parle de chiffres, n'oubliez pas, c'est un pays dictatorial. Le gouvernement décide de tout. La croissance est à 3, ça ne lui convient pas, il l'a mis à 6. Donc officiellement, c'est à 6. Et les chiffres de la pollution, là aussi, c'est pareil. Ils disaient non, on ne les publie pas, on ne les publie pas. Seulement, qui publiait des chiffres et qui prenait des mesures? C'est l'ambassade des États-Unis qui en prenait. Pour ses propres touristes, parce que la Chine, c'est ouvert. Vous pouvez aller visiter la muraille de Chine, vous pouvez aller visiter la place Tiananmen, le palais impérial, tout ça, c'est visitable. Hein. Personne ne vous empêchera d'aller voir quoi que ce soit. Et donc, les États-Unis publiant ça, les Chinois étaient au courant que non, ça va pas bien. Et ils ont donc demandé au gouvernement chinois de donner des données. Les questions environnementales sont les seules sur lesquelles la population chinoise peut critiquer le Parti communiste, un membre du Parti communiste, un maire communiste ou quoi que ce soit de communiste. C'est les seuls. C'est-à-dire qu'ils vont râler sur les poubelles. Ils ne peuvent pas dire « Parti communiste, gomme, vive la liberté », ça, ils ne peuvent pas, ils savent. Ils l'ont vécu. En revanche, ils peuvent dire « Oui, mais là, les poubelles ne sont pas bonnes. Là, il y a des déchets, là, c'est pas bien. Là, mon eau n'est pas bonne. Là, mon air n'est pas bon, il faut faire quelque chose. » Et donc, le gouvernement chinois est le gouvernement qui donne le plus d'informations sur l'air à sa population. Tout ça parce que la population a fait pression pour qu'elle ait des véritables chiffres. Donc les questions environnementales ne peuvent plus être cachées. Et cette pollution de l'air, il faut ajouter celle de l'eau. On compte que 80% des nappes phréatiques sont polluées par les conséquences de la surconsommation de produits, d'engrais chimiques, de pesticides, d'herbicides et compagnie par l'agriculture. 80% des nappes phréatiques sont polluées, plus l'urbanisation, parce que les canalisations et les stations d'épuration ne sont pas automatiquement ni là, ni en normes. Donc ce sont des enjeux véritablement actuels, et ce n'est pas sans raison intérieure que le plus grand pollueur de la planète s'engage de façon volontaire dans des projets environnementaux. Tout comme son implication ici, par exemple, dans le projet ITER. Pourquoi est-ce que les Chinois sont présents? Parce qu'il va falloir trouver une énergie de substitution au charbon. Ils le savent, ils le vivent. Et ils ne peuvent pas non plus tout miser sur le nucléaire. 1,4 milliard d'individus. Vous imaginez le nombre de centrales nucléaires qu'il faudrait pour ces 1,4 milliard d'individus. Donc, 1,4 milliard d'individus, pour les chauffer, pour produire l'électricité, pour qu'ils se sentent chez eux, pour qu'ils se sentent développés, pour qu'ils soient véritablement développés, dans des normes occidentales, puisque c'est toujours un copier-coller des normes occidentales. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent consommer comme ça? Parce que les Chinois, ils regardent aussi la télé, ils regardent aussi le cinéma. Et dans le cinéma, ils voient bien que les Américains ou les Européens, quand ils sortent, il y a de la lumière dans les rues. Quand ils veulent voyager ou acheter une baguette de pain, pouf, ils prennent la voiture. Donc ils veulent faire pareil. Et partant de ce constat, tout comme l'Indonésie par exemple, la Chine a dit nous on est un grand pollueur, ok d'accord, mais jusqu'à présent ils traitaient nos déchets polluants. Et l'année dernière, en 2018, Xi Jinping et le gouvernement chinois ont annoncé de façon unilatérale qu'ils arrêteraient d'accueillir le plastique européen. Donc ils ont renvoyé un cargo, des cargos remplis de plastique, de nos déchets plastiques, pour la France, de cargo, pour pour l'Allemagne un cargo, comme quoi, vous voyez, hein, l'Allemagne qui donne toujours des leçons, ah, nous sommes écologiques, et ben écologique, il y a, mais écologique, et quand on produit des matières plastiques, ben, au lieu de les traiter nous, on les envoie ailleurs. Donc, ces cargos sont en train de revenir, et à l'exemple de la Chine, vous avez des pays d'Asie du Sud-Est, comme par exemple l'Indonésie, qui a dit, ben nous, les plages de Bali, faire de la plongée en Bali, on nage dans le plastique, donc nous aussi, on en a marre, donc on n'accepte plus les déchets plastiques des Européens ou des Américains. Voyez le cynisme. On nous fait payer des taxes sur l'écologie, et puis en fait, l'écologie, en fait, on la traite pas chez nous, on va la faire traiter par des gens en Afrique ou en Chine. Et donc, quand on dit que Xi Jinping est cynique, ben, regardez bien, est-ce que nous ne sommes pas aussi cyniques? Et n'en déplaise au grincheux anti-Greta, eh ben, Greta a raison. C'est à pleurer de voir des choses comme ça, de se dire que ben voilà, on envoie tout à l'autre bout du monde en se frottant bien les mains et en se lavant les mains tel Ponce Pilate. Il va falloir peut-être que ça change.
On va faire comme l'oiseau alors. Petit intermède avec Michel Fugain.
Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Chanter ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. Dit, comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. De liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu.
Alors, quel est donc le but principal de Xi Jinping?
Bien, l'enjeu de Xi Jinping, c'est que la Chine devienne la grande puissance du XXIe siècle. C'est un rapport avec l'histoire de la Chine. Hein. La Chine, c'était donc une très grande civilisation. Confucius, Lao Tzu, des villes déjà construites, organisées, des systèmes d'égouts, des systèmes... Enfin bref, ils avaient un système administratif à l'époque où nous, on était avec Charlemagne, des épées, des châteaux forts. Ceci fait partie donc du pacte. Un pacte qui a été fait entre le Parti communiste et le peuple chinois. À la population chinoise, la société de consommation. Je peux rentrer dans un Carrefour, je peux rentrer dans un Walmart, je peux rentrer dans n'importe quoi, je peux acheter ce que je veux. Je peux voyager si j'en ai envie, il n'y a pas de souci. Vous voulez aller, tu veux aller voir Paris, tu veux aller avec ta robe de mariée sur le plateau de Valensole, il n'y a aucun problème, tu peux y aller, pas de problème. Tu peux avoir ton billet et ton passeport. Mais à une seule condition, c'est qu'une fois que tu rentres chez nous, c'est-à-dire chez toi, eh bien, tu ne demandes pas des libertés démocratiques. C'est la condition. Et le peuple chinois, pour l'instant, en tout cas, accepte ce deal, ce New Deal chinois, c'est-à-dire la croissance, l'emploi, contre des libertés. Xi Jinping ne peut garder le pouvoir que s'il garantit cette croissance économique et sociale. Il faut assurer donc l'approvisionnement de l'énergie, puisque c'est l'une des caractéristiques de la croissance économique, c'est la croissance de la consommation énergétique. Et comme croissance énergétique, eh bien, qu'est-ce que j'ai comme une source? J'ai par exemple les hydrocarbures. Jusque dans les années 2000, la Chine était autosuffisante puisqu'elle exploitait du pétrole dans le nord-ouest, de la Chine, dans le Xinjiang. Mais la demande intérieure est telle, 50 millions de voitures vendues par an. Vous imaginez? La croissance est telle que maintenant, il faut que les Chinois importent des hydrocarbures et du gaz. Et comme fournisseurs, ils ont des pays d'Asie centrale, le Turkménistan, le Tadjikistan, la Russie. Et puis, ils ouvrent aussi des routes de la soie terrestre et maritime, par exemple, qui garantissent ces routes de la soie, donc leur approvisionnement, par exemple, avec du pétrole soudanais qu'ils vont prendre dans des ports érythréens pour les réimporter chez eux. C'est le sens donc de ce collier de perles de bases navales, militaires et civiles chinois situés dans des pays alliés comme par exemple Djibouti, l'Érythrée, le Pakistan, le Sri Lanka, la Birmanie. Tous ces pays sont bien sûr soutenus par Pékin. On ne critique pas la junte militaire de Birmanie quand elle s'attaque aux Rohingyas. On peut critiquer Aung San Suu Kyi, mais pas la junte militaire. Ça, il faut pas. Hein. Eux, ils sont pro-chinois, ça c'est sûr. C'est aussi le sens de l'occupation d'îles et de récifs par les Chinois contre tous leurs voisins en mer de Chine du Nord et méridionale, ainsi que celui du renforcement de la marine militaire chinoise à un rythme exponentiel. Voilà un pays qui n'avait pas de porte-avions il y a 10 ans. Alors ils ont fait un truc, c'est que ils ont acheté un vieux cuirassé à la Russie et ils l'ont transformé en disant bon, on va en faire un bateau à nous, mais ils ne disaient pas qu'ils allaient faire un porte-avions. Ils ont été capables de faire dessus un porte-avions. Donc ils ont fait un porte-avions, puis ils en ont construit un deuxième, et là ils en prévoient 4 dans les 3 prochaines années. Donc 4 porte-avions, alors par rapport à la puissance américaine, c'est encore rien, mais ça commence à devenir très inquiétant pour les pays autour. Parce qu'il n'y a pas que les porte-avions qu'ils améliorent, ils améliorent aussi leurs infrastructures militaires, leur potentiel militaire, leurs avions militaires, leurs chars militaires. Et quand un pays d'un 400 millions d'habitants commence à se renforcer ainsi, les pays qui sont autour, le Vietnam, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, tous ces pays commencent à prendre un peu peur et se réarment eux aussi, ou se rapprochent, et surtout se rapprochent des États-Unis. Alors on a un rapprochement depuis 10 ans, à peu près, on a un rapprochement, par exemple, assez incroyable entre le Vietnam et les États-Unis. On a eu une visite d'Obama, et puis les États-Unis, donc le Vietnam a demandé de l'armement aux Américains. Pour l'instant, il n'y a pas d'objet d'avoir des bases militaires américaines, encore que c'est dans les cartons du Pentagone de revenir se mettre du côté de Da Nang, comme au bon vieux temps de la guerre du Vietnam. Mais pour le gouvernement vietnamien, c'est une question historique, hein, d'histoire. Hein. Ils veulent bien que les Américains viennent les aider le cas échéant, mais qu'ils leur fournissent un certain nombre de matériel, mais pas quand même qu'ils reviennent au Vietnam. Là, c'est beaucoup quand même. Pour l'instant, en tout cas, c'est beaucoup. Et la menace chinoise n'est pas aussi grande pour l'instant. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, de l'Inde. L'Inde de Modi, qui demande un réarmement, qui demande le soutien militaire américain... Russes aussi, hein, qui achètent des avions français, je rappelle, hein, les Rafales qui ont été achetés par les Indiens. Et donc les Indiens, les Japonais, bah, ils viennent de signer par exemple des accords de défense entre eux, vous avez Singapour qui est rentré dans ces accords, vous avez Taïwan qui rentre dans ces accords, et là on voit bien à ce collier de perles chinois, bah, un autre collier de perles qui est en train de se mettre, c'est-à-dire les alliés des États-Unis qui sont en train de reprendre le poil de la bête, on va dire, et de se dire bah, on se réarme, tant qu'ils se réarment là-haut en Chine et à Pékin, bah, nous aussi on va se réarmer. Et dans ce petit jeu, ben, la France, ben, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend du matériel. Elle vend du matériel à ces pays qui se réarment en ce moment. Et je rappelle quand même une donnée historique, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est réarmé quelque part, c'est qu'à un moment donné, on a eu envie d'utiliser ces armes. C'est pas seulement pour un défilé militaire sur la pièce Tiananmen ou sur les Champs-Élysées. C'est qu'à un moment donné, vous dites clairement la menace. Et ça en fait de la zone Asie-Pacifique, bah, l'une des zones où on peut avoir un conflit. C'est sûr que si on joue comme Trump et son ami nord-coréen à se faire peur avec des armes nucléaires ou des missiles qui traverseraient une partie du Pacifique ou qui survoleraient le Japon, si jamais la marine chinoise commence à titiller un peu la marine japonaise en mer de Chine pour les îles Shinkaku, bah, ça risque fort. Un petit incident peut donner quand même une guerre. Alors, on n'en est pas là, hein, je répète, hein, parce qu'il n'y a pas de déclaration de guerre. Mais la menace existe. Et cette menace, eh bien, Xi Jinping n'en a pas véritablement envie. Il en joue, mais il n'a pas envie d'une guerre. Et donc, c'est pour ça qu'il calme un peu la Corée du Nord quand elle s'excite par rapport à Trump, mais tout en faisant des manœuvres conjointes aériennes ou navales avec les Russes pour bien montrer aux États-Unis notamment qu'il ne faut pas aller trop loin. Voilà, c'est garde-toi bien de venir me chatouiller dans ma mer. La Chine populaire doit aussi assurer un débouché à ses propres productions industrielles. C'est l'atelier du monde, mais l'atelier du monde ne peut marcher que si elle a des clients. Quand on a fait Atchoum en 2008 avec la crise des subprimes, quand le monde entier a fait Atchoum et que vous avez des entreprises qui ont fermé, des millions de chômeurs qui ont été mis sur le carreau à cause de Lehman Brothers et autres, cette crise économique qui s'est abattue sur le monde occidental, elle a touché la Chine. La Chine officiellement n'a pas de chômage, parce que je rappelle que dans un pays communiste, il n'y a pas de chômeur. Le chômeur est donc, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, est un parasite. Donc, je répète, hein, idéologiquement, c'est quand même comme ça. Et donc, il n'y a pas de chômeur, mais quand même, ils ont eu du chômage, on le sait.
Prenons bien garde et faisons attention que ça n'arrive pas non plus chez nous.
Oui, y en a qui ne se gênent pas pour le dire. Bon, c'est vrai. Donc, cette Chine populaire doit assurer des débouchés à sa production. Et comment elle fait ? Eh bien, elle écrase les marchés intérieurs des pays de voie de développement avec ses produits à bas prix. Je m'explique. Son cheval de Troie, c'est la construction d'infrastructures avec des ouvriers chinois, par exemple, en Afrique. Vous voulez un port, vous voulez une mosquée, vous voulez une cathédrale, vous voulez une église, vous voulez un stade, vous voulez une université moderne, les Chinois vous l'offrent. On vous offre tout. On vous l'offre avec des ouvriers chinois, triés sur le volet dans les prisons chinoises. C'est-à-dire que là, j'ai des prisonniers de droit commun qui arrivent en Afrique, qui font des constructions dans des conditions que vous n'imaginez pas, et qui ensuite sont largués dans ces pays africains avec un pécule pour ouvrir un petit magasin dans lequel ils vendront des produits made in China. Ça se passe en Afrique noire, ça se passe en Afrique du Nord. Vous avez des magasins chinois maintenant en Algérie, en Tunisie, à côté dans le bazar. Vous avez ça. Et ces produits chinois sont en train d'écraser, d'accord, l'industrie naissante africaine, par exemple, ou asiatique. À tel point, c'est que l'Inde a interdit l'importation de produits chinois. C'est-à-dire qu'ils ont fait un protectionnisme dur pour interdire aux Chinois de pénétrer le marché indien et donc de liquider l'industrie chinois, l'industrie indienne naissante. Vous n'imaginez pas la puissance que peut avoir un... C'est comme une gifisation, c'est-à-dire que vous avez le choix entre un artisan ébéniste français à Manosque et tout ça, qui va vous faire des prix, qui va vous faire peut-être un petit prix, mais vous ne pouvez pas lutter contre Jiffy. Jiffy, le meuble à 10 euros, qu'est-ce que vous voulez? Quand on vit dans, avec 900 euros ou 2000 euros par mois, on achète un meuble à 900 euros, on va pas acheter un meuble à 2000 euros. Il y a un choix à faire entre le meuble et le reste. Donc les Chinois savent très bien faire ça, le commerce sait très bien faire ça, et les grandes enseignes de la grande distribution savent très bien faire ça. En Afrique, ils savent très bien faire. Et ça a été un tel point, c'est que quand vous achetez du wok maintenant, vous n'avez quasiment plus de wok africain, c'est terminé. Il n'y en a plus, c'est du wok fabriqué made in China, qu'on vous fait passer pour du wok africain, mais en fait, ça n'en est plus. Donc c'est vous dire où on en est, et dans certains continents, où ils en sont. Donc, et ça, c'est sans compter, par exemple, un truc qu'il faut quand même savoir, c'est que la France vend du bois à la Chine, du bois brut, d'accord, que la Chine transforme en planches, qu'elle transforme en parquet, et ce parquet, vous le retrouvez à vil prix, on va dire, dans tous les magasins de BTP du coin, que ce soit chez Weldom ou à la CIMC ou ailleurs, c'est là que vous trouvez des trucs pas chers, made in China. Donc, ça donne un pouvoir à la Chine, ça donne aussi des emplois aux Chinois, parce que bien sûr, si vous avez des acheteurs, automatiquement, les produits chinois vont pouvoir s'exporter, vous allez pouvoir avoir une balance commerciale excédentaire. Donc, l'autre objectif de la Chine, c'est aussi que elle a un problème, c'est qu'elle n'a pas vécu les trois premières révolutions industrielles. La révolution du charbon et de l'acier, non. Elle était en retard, elle était opiumisée, on va dire, puisque les Anglais vendaient de l'opium avec les Français, histoire de bien nettoyer les cerveaux des Chinois, histoire qu'ils se rebellent pas et qu'ils inventent rien. Donc la première, c'est fini. La révolution industrielle du moteur à explosion de l'électricité, là aussi, c'est pareil, elle est passée à côté. La troisième, sur l'électronique, elle est passée à côté, et là les Chinois ont dit non, ça suffit, à force de jouer à ça on peut plus, donc on va pas passer à côté de la future révolution industrielle. Donc le processus a commencé avec Deng Xiaoping. Deng Xiaoping a très clairement vu, pour une raison essentielle, c'est que Deng Xiaoping a été ouvrier en France et qu'il a été salarié aussi aux États-Unis. Donc il a bien vu comment ça se passait en France et aux États-Unis à la Belle Époque et pendant la guerre 14-18. Donc, il a très bien vu comment ça se passait. Il s'est dit, pour qu'on soit véritablement une grande puissance, il nous faut des savants et des ingénieurs. Donc, il a dit, profitons d'avoir des gens intelligents chez nous pour avoir ces savants et ces ingénieurs. Seulement, les universités chinoises ne sont pas véritablement au top niveau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chinois? Ils ont inventé un classement qui s'appelle le classement de Shanghai. Et ce classement de Shanghai, il vous classe toutes les universités du monde par nombre de prix Nobel dans telle université, par nombre d'articles et de trouvailles universitaires et scientifiques. Ils font des classements comme ça. Alors, sachez quand même que dans les 10 premières, vous en avez deux qui sont britanniques, Cambridge et Oxford, dans l'ordre. Et puis, vous avez les autres, sont américaines. La France est la 6e puissance scientifique aux yeux des Chinois, avec la Sorbonne et puis... On va rester sur la Sorbonne pour l'instant. Donc, vous avez donc ce classement. Et qu'est-ce qui se passe? Les Chinois envoient leurs plus beaux éléments, leurs plus valeureux étudiants, les plus dynamiques, les plus intelligents, et ils envoient dans ces universités-là, histoire d'apprendre les techniques, les méthodes de travail des grands scientifiques de ce monde. Et vous retrouvez donc, par exemple, 15% des chercheurs de la Silicon Valley sont chinois ou d'origine chinoise. Donc, sont-ils des espions? On pourrait rentrer dans ce truc. Ça y est, ils sont tous espions, ils nous piquent notre technologie et compagnie. Écoutez, ils nous piquent pas notre technologie plus que nous leur avons piqué leur technologie. Et puis n'oubliez pas quand même que dans la Silicon Valley, vous avez aussi des ingénieurs et des savants français, et que la science, elle est là pour être partagée. Mis à part la science militaire, peut-être qu'il faudrait cacher. Le reste, en fait, ça devrait être c'est public. Donc, ils apprennent des technologies qui sont impossibles à avoir dans leur pays. C'est une coopération scientifique, donc. Les entreprises chinoises, elles achètent des entreprises étrangère de renom. Je vais vous donner un exemple, c'est l'automobile. L'automobile, vous avez des marques chinoises, mais alors vraiment, c'est une catastrophe. Entre le plastique qui fond, vous tournez à droite, vous tournez avec votre volant à droite, les roues vont à gauche, vous avez des freins qui, au bout d'une centaine de kilomètres, ne répondent plus véritablement, enfin bon, bref. Donc ça, les Chinois le savaient, l'industrie chinoise le savait, donc les industriels chinois ont dit, ça peut plus durer, on peut pas seulement copier-coller à partir de la Chine et des usines de production qu'il y a chez nous, il faut qu'on ait de la technologie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté d'autres usines et d'autres entreprises de renom. Par exemple, vous avez Volvo, le Suédois, qui a été racheté par une marque chinoise. Transfert de technologie, donc, d'entreprise à entreprise par captation. Vous avez, par exemple, le groupe PSA, qui, à un moment donné, a eu des difficultés. PSA, je rappelle pour les auditeurs, c'est Citroën et Peugeot, qui a eu des difficultés. Et sont entrés dans le capital des industriels chinois. Pourquoi? Parce que quand Peugeot et Citroën inventent un processus ou quelque chose de ce type, ou améliore un moteur, comme ça les Chinois peuvent avoir ce moteur. C'est le cas aussi quand par exemple Airbus délocalise une usine de montage d'avions en Chine, ça fait un transfert de technologie pour les Chinois. Donc voilà. Donc on est dans cette recherche d'avoir des nouvelles technologies pour être une grande puissance. La Chine n'est pas le seul, l'Inde fait exactement pareil dans cette compétition. La Chine ne veut pas perdre la prochaine révolution actuelle, c'est-à-dire celle de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi c'est le pays qui, avec les États-Unis, est à la pointe dans cette recherche, tant dans les investissements que dans les découvertes et les applications. De cette intelligence artificielle dépendra qui dominera le monde et les réseaux connectés, mais aussi certains progrès, comme la médecine, comme les nouvelles greffes, des choses intéressantes. Je pense qu'on n'en est qu'au début. Qui domine donc l'intelligence artificielle domine le monde? Le match est lancé entre Pékin et Washington et l'Europe. L'Europe, c'est encore aux abonnés absents. D'autant plus que Pékin soutient, comme Moscou, les nationalistes de tous bords, histoire qu'on n'ait pas de politique européenne de ce côté-là. Bien. Le problème est que la Chine ne fait pas envie. C'est ça son problème, en fait. Ça fait pas envie. Pourquoi? Parce que c'est une dictature. Et une dictature ne fait envie à personne, mis à part aux fans de dictateurs et à ceux qui pensent que une dictature, c'est quand même mieux qu'une démocratie. Bien, parce que, bien sûr, il faut de l'ordre. L'ordre avant la liberté. La liberté, c'est le désordre. C'est des gens qui peuvent critiquer et tout ainsi. On n'aime pas la critique. Donc, le problème, donc, c'est que la Chine ne fait pas envie. La Chine a un problème aussi linguistique, c'est que sa langue est difficile. Les prononciations sont... c'est difficile. Vous pensez que vous dites un mot, mais en fait, en prononçant, vous en dites un autre. Donc, c'est difficile. Donc, ça limite, en fait, son soft power. Alors, c'est très bien, la muraille de Chine, la culture chinoise, la gastronomie chinoise, tout ça, ils le savent. Ils ont une diaspora de plus de 50 millions d'habitants, et donc, ils savent faire. Ils savent aussi plaire sur certaines questions. Seulement, il reste quand même cette dictature. Comment voulez-vous? Xi Jinping, il peut faire les efforts qu'il veut, nous envoyer des pandas, les dirigeants chinois, ils ont des lobbies. Alors, vous avez par exemple un bon pro-chinois en France. Vous avez par exemple Raffarin. Raffarin, il nous a fait passer la pilule de la peste elle-même pour qu'on aille tous au JO de Pékin sans dire quoi que ce soit sur le fait qu'ils avaient massacré des gens. Bon, voilà, vous avez ce type de personnage. Les Hongkongais, les Tibétains, les Ouïghours musulmans, les chrétiens, les autres artistes et journalistes qui sont persécutés, tués chez eux ou dans leur maison, enfermés dans leur propre maison, que ce soit un panda ou que ce soit un autre, ils savent très bien ce qu'est le gouvernement chinois. Et le fait que maintenant on ait des reconnaissances faciales dans les villes pour savoir si vous êtes compatible avec l'esprit chinois, vous crachez par terre, pouf, vous avez 10 points en moins, vous ne payez pas, pouf, vous avez 10 points en moins. Alors je sais que ça fait fantasmer quelques-uns, mais enfin. Et qui critique la Chine à l'heure actuelle? Trump? Écoutez-moi, chers auditeurs et auditrices, s'il n'y a que Trump pour critiquer la Chine, la démocratie a du souci à se faire. Parce que s'il n'y a que lui, et que disent les autres? Pas grand-chose. Pas grand-chose, pourquoi? Parce que, en fait, vous ne pouvez pas critiquer une puissance comme ça. Vous pouvez pas critiquer celle qui construit les fringues, qui vous fait vos tablettes, qui vous fait vos ordinateurs, qui vous fait ce micro là dans lequel je suis en train de parler. Tout ça c'est made in China. Hein. Et si jamais on commence à critiquer, on va vite se retrouver du moins en slip, peut-être même à poil. Je le dis sincèrement, mais c'est l'atelier du monde. Et c'est l'hyper-industrie du monde. Et ce statut d'hyper-industrie, on ne critique pas une industrie comme ça. Tout comme les autres pays, je rappelle historiquement, ne critiquez pas l'Angleterre comme ça ou la France comme ça au 19e siècle. Vous ne critiquez pas celui qui vous vêtit, celui qui vous fabrique des choses dont vous avez besoin. Nous terminerons, non sans humour, avec Mao Mao, une chanson tirée du film La Petite Chinoise de Jean-Luc Godard, chantée en 1967 par Claude Chan. Merci à James, merci à la technique, merci à Fréquence Mistral d'éveiller encore une fois les consciences et par la connaissance. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être fidèles à l'émission et de la partager. Je vous retrouverai dans quelques semaines pour un nouveau rendez-vous sur les questions migratoires.
Le Vietnam brûle et moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao, Mao. Le napalm coule et moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient et moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mue Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Diop dénonce, je renonce Mao, Mao.
C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge.
La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même.